I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews 2021 de la saison NFL. Un jour, une preview pendant 32 jours, évidemment. Aujourd'hui, au programme, les New York Jets. À mes côtés, toujours Grégory Richard, bonjour.
Bonjour, messieurs, bonjour à tous.
Et Lucas Vola, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Nous sommes réunis ici pour parler des New York Jets, 2 victoires, 14 défaites la saison dernière, pendant l'intersaison évidemment, comme les Jaguars hier. La grosse arrivée, c'est un quarterback à la draft, Zach Wilson en l'occurrence, le numéro 2 du premier tour. Ils ont aussi sélectionné Vera Tucker, un garde pour le protéger, Elijah Moore, un receveur pour l'aider, Michael Carter, un running back toujours pour l'aider, et puis Jamien Sherwood en défense, un safety. Mais sinon, ça a été très offensif chez les free agents aussi d'ailleurs, avec Tevin Coleman au sol, Corey Davis à la réception, Keelan Cole également, Tyler Croft, Tyden aussi, Morgan Moses sur la ligne, Dan Finney sur la ligne. En défense, on est allé chercher Carl Lawson, Vinnie Curry, Sheldon Rankins, Jarrad Davis, Justin Hardy et LaMarcus Joyner. Beaucoup, beaucoup de recrutements hein, du côté des Jets, même s'ils n'ont pas forcément dépensé les énormes sommes de dollars qu'ils avaient en stock. Ils étaient 32e sur les points marqués l'an dernier. Ça peut difficilement être pire, 31e à la passe. Est-ce qu'ils ont réussi une bonne intersaison, Grégory, avec ces renforts jeunes, mais aussi quand même avec ses touches d'expérience, Tevin Coleman, Corey Davis?
Oui, oui. Bah en tout cas, de ce qu'on avait vu l'an passé et la saison catastrophique, ce qui avait été mis en place par Adam Gase, ça paraissait quand même extrêmement léger. Donc là, c'était plus ou moins planifié par le general manager des Jets. Vu les récents contrats qui avaient été offerts, on était clairement reparti sur une grosse, grosse reconstruction. Manifestement, il y a des bons choix qui ont été faits. Je m'étais exprimé à l'époque, il y a des choix que je trouve extrêmement pertinents dans la free agency, notamment sur un front seven qui doit être développé. Carl Lawson, Jarrad Davis, je vais pas développer trop longtemps, mais c'est sûr que forcément, c'est en attaque qu'on regarde plus précisément, et c'est sûr que oui, au poste de receveur, on peut pas avoir d'un mauvais œil, notamment les arrivées de Davis ou de Cole, notamment pour encadrer, pardon, je suis désolé, j'ai des trous de mémoire, pour encadrer Denzel Mims, qui rentre dans sa deuxième année, et surtout Elijah Moore, donc le rookie dont on attend beaucoup. Donc, c'est sûr que sur le papier, il y a quand même des choix extrêmement cohérents qui ont été faits, et ça augure quand même, a priori, sur le papier, une bien meilleure saison que ce qu'on a pu voir en 2020.
Qu'est-ce qui ressort pour toi, Lucas? Plutôt la ligne défensive renforcée dont parle Greg, ou plutôt ce groupe de receveurs? Qu'est-ce qui te semble le plus important?
Ah ouais, non, plutôt moins la défense. Le groupe de receveurs, j'en suis pas forcément convaincu. Par contre, la défense, elle me plaît. T'as parlé de certains recrutements, Carl Lawson, Sheldon Rankings au milieu de la ligne qui peut faire beaucoup de mal, Vinnie Curry. Il devrait y avoir le retour de CJ Mosley, la Marcus Joyner en safety qui va être associé à Marcus May. Je pense qu'il va y avoir une grosse défense. On n'a pas parlé du changement de coach, mais il arrive avec une identité défensive normalement très prononcée, avec une défense qui peut être très très solide. Moi, c'est voilà, on parle souvent des facteurs qui peuvent faire gagner cette équipe dans ces passes-ci. Pour moi, c'est la défense qui peut faire gagner cette équipe plus que les receveurs. Mais bon, on peut tomber d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Mais voilà, moi, la défense est dans une division en plus où il va y avoir de très grosses défenses. Je pense qu'elle vient regarder dans les yeux la défense des Patriots qui peut être pas mal, la défense des Dolphins qui était très bonne l'année dernière, qui peut être tout aussi bonne, la défense des Bills qui est historiquement bonne. Je pense qu'elle peut faire partie des très bonnes défenses de la division, voire même de la NFL.
Greg, est-ce que tu irais jusqu'à les mettre dans les motifs d'espoir pour gagner? Parce que moi, je partage l'enthousiasme sur les lignes, notamment avec Quinnen Williams, qui est quand même une super base, il va être bien entouré avec Rankins, etc. Après, moi, quand j'entends Lucas, quand je t'entends dire Buffalo, New England, je ne vois pas de Stephon Gilmore ou de Tre'Davious White du côté de New York.
Non, non, déjà, tu as mis le doigt sur un secteur qui, moi, m'inquiète tout particulièrement, à savoir le poste de cornerback, et ça fait plusieurs années que ça dure, en l'occurrence. C'est que, en effet, Robert Saleh, puisqu'on parlait de lui, en effet, a toujours eu un pass rush extrêmement efficace à San Francisco, aussi parce que c'est un pass rush extrêmement fourni. Donc là, sur le papier, c'est un peu plus léger. C'est là où on verra si c'est vraiment lui qui est capable de développer le pass rush. Attention, je ne dis pas que l'an dernier, avec les blessures qu'ils ont eues, le pass rush n'était pas efficace. Hein. Il a montré qu'il était capable de le faire, même avec les nombreuses blessures qu'il avait à San Francisco, notamment celle de Nick Bosa. Mais c'est vrai que, a priori, les deux qui vont partir, c'est Carl Lawson et Ronald Blair, je pense, qu'il a fait venir des Niners. Bon, faudra éventuellement réussir à en faire des pass rushers élites. Je l'ai dit, Carl Lawson, je l'aime bien, mais il ne rentre pas encore dans ce cadre-là, et c'est peut-être plus dans cette optique-là qu'il faut voir. Et du coup, ça expose peut-être un peu plus le backfield défensif. On parlait également de CJ Mosley et de Quinnen Williams. Bon, CJ Mosley, on sait que l'année dernière, il y a eu la mise en retrait liée à la Covid, mais sauf erreur de ma part, je ne sais même pas s'il a joué un match entier chez les Jets.
Non.
Il se blesse lors de son tout premier match de mémoire en 2019. Quinnen Williams, il a ce petit défaut, même s'il est monté en puissance l'an dernier, d'être là aussi, de faire quelques petits allers-retours à l'infirmerie de temps en temps. Donc, je ne sais pas si... J'entends ce que dit Lucas. Il y a un potentiel, en effet, que je trouve intéressant, beaucoup plus intéressant que l'an passé, ça, c'est pas dur. Mais c'est vrai que ce backfield défensif sorti de Marcus May, pour l'instant, ne m'éblouit pas plus que ça. Donc, c'est vrai que j'aurais plus de réserves sur la défense pour l'instant, et je pense que c'est ce qui peut leur coûter cher. Après, on ne parle pas d'une équipe qui va prendre 40 points par match, mais c'est ce qui peut peut-être leur coûter cher, justement, contre des équipes un peu plus aguerries dans ce domaine.
Bon, il y a divergence d'opinion de ce côté-là. Greg, pour toi, pourquoi ils peuvent gagner alors ?
Pourquoi ils peuvent gagner ? Pour le coup, j'y suis plus allé encore une fois vers l'attaque. Là aussi, le poste de receveur, oui, c'est clairement pas la meilleure escouade du plateau. Hein. Je tempère ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez excitant dans le sens où Robert Saleh a aussi fait venir, en provenance de San Francisco, Mike McDaniel de mémoire. Ancien coordinateur, enfin en tout cas responsable du contrôle qualité, enfin je sais plus comment ils appellent ça du côté des Niners. Bref, ancien assistant de Kyle Shanahan.
J'aime bien quand ils sont appelés contrôle qualité parce que j'imagine que mec vérifie la conformité des boulons quoi à chaque fois.
C'est ça. Donc voilà. Donc il y a quand même malgré tout avec un nouveau quarterback qui arrive, un quarterback extrêmement excitant hein, parce qu'on a vu encore une fois qu'il avait cette mobilité, cette capacité de lancer en mouvement qui est extrêmement recherché en NFL. Donc, c'est vrai que certains mettront forcément l'argument implacable de « il a prouvé qu'une seule saison à BYU », mais en attendant, il y a quand même de bons acquis à disposition. Et je le répète, avec des receveurs corrects, même si là aussi, on n'a pas affaire à une classe élite. Au niveau de la ligne offensive, on a vu un Mekhi Becton très intéressant l'an passé côté gauche. Ils ont fait venir Morgan Moses, bon, qui s'est un petit peu perdu ces derniers mois, mais qui à droite peut éventuellement être un renfort assez intéressant. Et Elijah Vera Tucker, pour le coup, je pense que pour solidifier l'intérieur, ça me paraît pas mal. Donc c'est vrai que, mis à part peut-être le backfield offensif, dont je parlerai peut-être plus tout à l'heure, il y a pas mal d'arguments quand même qui laissent penser que cette équipe des Jets va peut-être être un peu plus ingénieuse, en tout cas offensivement, à réussir à mettre un peu plus de points. En tout cas de faire meilleure figure très clairement, d'être beaucoup plus dans les matchs, beaucoup plus volontaire que ce qu'on a pu voir tout au long de la campagne passée.
Lucas, Zach Wilson, avec ce groupe de receveurs là, ça te parle quand même en attaque? Ça peut être un atout, ça peut marcher?
Non, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, on a une vraie différence d'approche sur les Jets avec Greg. Je suis vraiment pas convaincu par ce groupe de receveurs. Je parlerai pas de Zach Wilson parce que voilà, j'ai toujours tendance à dire que j'attends de voir en NFL avant d'avoir une opinion d'un côté comme de l'autre. Donc, je n'aborderai pas vraiment Zach Wilson, mais je regarde le matériel qu'il y a autour de lui. Les running backs me font pas rêver. Oui, il y a Tevin Coleman qui est arrivé, mais c'est plus tout à à fait le même joueur qu'il était, et surtout il est très bon dans un groupe de running back. Les receveurs, Greg les a assez détaillés, mais je vois pas un receveur numéro un. Est-ce que je Corey Davis, est-ce que c'est vous considérez que c'est Corey Davis qui sera le receveur numéro un de cette équipe? Denzel Mims, il a pas vraiment prouvé l'année dernière. Le rookie dont j'ai oublié le nom, qui Elijah Moore, qui vient de voilà, j'ai du mal à voir un receveur numéro un. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, déjà, voilà, je trouve ça compliqué. On sait que les tight ends, pour un lanceur rookie, c'est important. Voilà, je ne suis pas convaincu par cette attaque, par les skill players, et donc notamment par les receveurs. Mais je fais confiance à Greg. Hein.
On est d'accord qu'il joue la quantité plus que la qualité sur les receveurs. En tout cas, il n'y a pas un top numéro 1. Corey Davis sort d'une bonne saison, mais c'est vrai qu'il va falloir confirmer.
C'est ça. En fait, c'est l'année très clairement où il doit démontrer qu'il peut l'être. Il a fait 2 saisons à 900 yards ou un tout petit peu moins en l'occurrence. Il a eu ce statut de numéro 5 de la draft aussi parce qu'on attendait justement qu'il soit un go-to guy attitré. Alors, c'est sûr qu'il a beaucoup profité ces dernières années à Tennessee du développement d'AJ Brown. Mais il y a une base de travail. Après, encore une fois, pour moi, c'est le numéro 1 sûr du côté de cette escouade des Jets. Mais encore une fois, parce qu'on parle, c'est sûr, d'une escouade de receveurs qui a aussi beaucoup à prouver chez de nombreuses individualités.
C'est sûr que Davis, là, il n'aura ni AJ Brown ni Derrick Henry hein, pour ouvrir un peu le jeu. Donc, ça pourrait être un peu plus compliqué. Pourquoi ils vont perdre, Greg? Ce qui a l'air de revenir de discussion, ça a l'air d'être les deux backfields. C'est-à-dire que c'est il n'y a pas de coureur, enfin, il n'y a pas vraiment de jeu au sol et il n'y a pas de cornerback, quoi.
Alors, si tu veux, alors je vais faire une double réponse en une. C'est-à-dire que pour moi, le jeu au sol, en tout cas offensif, pour moi, c'est à la fois ce qui peut les faire perdre et le facteur X. J'ai parlé notamment de l'intégration de McDaniel, c'est pas un hasard. On a quand même vu que les partisans, ou en tout cas ceux qui étaient proches de Kyle Shanahan, voilà, ne négligeaient clairement pas le jeu au sol. Et comme l'a dit Lucas, c'est vrai qu'on est plus ou moins parti pour avoir un backfield de comité. Donc, je suis très impatient de voir ce que peut donner le rookie Michael Carter, hein, qui a été drafté relativement haut hein, quand même par New York et qui avait montré de très, très bonnes choses du côté de North Carolina, qui est un running back extrêmement complémentaire, qui a pas été spécialisé dans la conclusion des actions au niveau de l'embut. Et c'est sans doute en termes de touchdown au sol l'an passé ce qui pouvait poser un petit peu problème du côté des Jets. Mais en tout cas, il peut apporter cette explosivité nécessaire. Après, ça me paraît peut-être un peu juste. En effet, quand on regarde le plateau global, c'est un comité où il y a encore beaucoup de points d'interrogation et où ça aura peut-être du mal à apporter une alternance crédible et à retirer une pression suffisante des épaules de Zach Wilson. Donc voilà, en effet, je réponds à ta question, les deux backfields, et plus particulièrement si je m'arrête sur l'attaque, ça, je ne suis pas totalement pessimiste, mais en tout cas, ça ne me rassure pas totalement d'emblée quand je regarde les noms sur le papier.
Lucas, toi, on a compris que tu ne croyais pas déjà beaucoup à l'attaque aérienne, donc celle au sol, à mon avis, ça doit être encore pire.
Ouais, moi je regrouperais skills player dans les facteurs qui peuvent faire perdre, comme tu dis, avec défensif et offensif. Et pour faire une petite passerelle, pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter la pastille d'hier sur les Jaguars, je trouve que Trevor Lawrence a beaucoup plus d'armes avec lui pour réussir en attaque que Zach Wilson.
C'est sûr. Le facteur X, donc Greg, tu l'as dit au niveau du jeu au sol. Lucas, tu garderais qui au niveau du facteur X?
Moi, je parlerai de la ligne offensive. Greg en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas détailler, mais voilà, on en a parlé. La ligne offensive, c'est important pour un quarterback, notamment quand il est rookie. Et voilà, dans ma vision, je ne vois pas forcément des skills players, je me répète, autour de lui. Donc, du coup, il faudrait que la ligne offensive soit solide. Elle n'a pas été très bonne l'année dernière. Elle a été même plutôt mauvaise, mais il y a des motifs d'espoir. Greg en a parlé avec Becton, avec Vera Tucker qui vient d'être drafté, Morgan Moses qui vient d'être recruté. Donc, ça peut être une bonne ligne offensive et ça peut aider Zach Wilson, même si il est bon en mouvement. Voilà, au bout d'un moment, notamment NFL, il faut savoir lancer dans la poche et pour ça il faut avoir une poche, donc je mettrai la ligne offensive en tant que facteur X.
Et ben on est tous axés sur Zach Wilson et ce qu'il y a autour, parce que moi c'était Corey Davis, 65 réceptions, 984 yards, 5 touchdowns l'an dernier. Il faut qu'il continue la progression. Ça pourrait permettre en plus d'articuler quand même un peu logiquement ce groupe de receveurs. Si lui s'imposait vraiment comme un numéro un, ça libérerait un peu Mims. Il y a toujours Jamison Crowder, mon gars sûr, qui va faire du boulot. Donc, mais Keelan Cole fait pas une mauvaise saison avec les Jaguars l'an dernier. Donc, il y a du monde autour. Si Davis arrive à s'affirmer, mine de rien, ça peut éventuellement ressembler à quelque chose. Je note que j'ai failli mettre Jim Osley dans les Factor X, mais les deux saisons blanches commencent à me faire peur. Donc, j'étais même pas sûr. C'est plus, j'attends de voir pour CJ Mosley. Le pronostic, messieurs, je vous donne le calendrier des Jets. Je rappelle que vous le retrouvez sur la fiche preview si vous voulez l'avoir en entier, parce qu'évidemment, à l'oral, ça va un peu vite. 17 matchs. Ça commence chez les Panthers, ensuite réception des Patriots à Denver. Ensuite, ça joue Tennessee, Atlanta, repos en semaine 6 chez les Patriots. Les Bengals, chez les Colts, les Bills, les Dolphins, chez les Texans, les Eagles, les Saints, chez les Dolphins, les Jaguars, les Buccaneers et les Bills. Il y a quand même quelques gros morceaux dans ce programme, puisque ça croise avec l'AFC Est. Donc c'est l'AFC Est, donc forcément les Patriots sont quand même un poil plus solides, les Bills sont très très forts ces derniers temps, les Dolphins c'est prometteur.
De toute façon, ils ne seront pas favoris pour gagner ne serait-ce qu'un match dans cette division. Hein. Voilà. Puisqu'on a vu des Bills, la progression des Dolphins et l'intersaison des Patriots, ils seront pas favoris d'un seul des 6 matchs, à mon sens. Pas pour l'instant, en tout cas.
Moi, j'ai envie de te dire que, en plus, le premier match peut être dévastateur sur le moral parce que ça joue les Panthers. Si Sam Darnold te fait une grande rencontre et te tue sur le premier match, ça peut annoncer une longue saison. Pronostic, Greg.
Pronostic, je ne vais pas aller plus haut pour l'instant qu'un 4-13. Je pense qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'automatisme. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Beaucoup d'automatisme en attaque et en défense. Donc, 4 victoires, pour moi, ce ne serait pas une si mauvaise chose. Après, c'est plus en termes de contenu qu'il faudra les analyser qu'en termes de fiches pure et dure.
Lucas.
Moi, je vais aller un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup. Je vais dire 5-12 parce que le calendrier est pas forcément évident, mais ça croise avec l'AFC Sud, je crois, donc les Jaguars, les Texans, les Colts et les
Titans.
Voilà, les Titans, pardon. Du coup, je me dis que ça peut le faire. Voilà, avec la défense incroyable qu'ils vont nous sortir cette année, comme les Broncos en 2015, puisque personne n'y croit à cette défense. Moi, je vous le dis, ils vont sortir une défense incroyable. Non, mais voilà, je pense que ça peut gagner quelques matchs. C'est vrai que on est sensiblement pareil avec Greg. Moi, je dirais 5-12.
Je pense que ça peut prendre Denver, Atlanta. Alors, je veux dire, ils ont une chance. Je ne dis pas qu'il est gagné. Denver, Atlanta, Cincinnati, Houston, Philadelphie, Jacksonville. Je pense que sur tout ça, ils en prennent 3. Moi, je vais être à 3-14. Je vais être le plus pessimiste des 3. Le backfield défensif me fait très peur. Si ça ne court pas du tout et si en plus il n'y a pas de tight end, enfin, ça peut être long pour Zach Wilson. Et si en plus, par malchance, il y avait une blessure qui s'en mêlait sur la ligne offensive. Alors là, ça pourrait commencer à tomber vite. Donc, écoutez, on a 3, 4 et 5 au niveau des pronostics. Donc, on a une bonne fourchette. C'est comme ça que se termine donc cette preview des Jets. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Le site, c'est tdactu.com. Les réseaux sociaux, tdactu pour Twitter et Facebook, @tdactu en entier sur Instagram. Et évidemment, la preview écrite en entier sur tdactu. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve demain.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.